Merci les musiciens, merci beaucoup, Dieu vous bénisse. Bon dimanche à tous, vous allez bien sous ce beau soleil?
Oui.
C'est bientôt l'été, dans quelques jours. Nous allons prier. Seigneur, je te prie premièrement pour notre frère Philippe qui est en train de terminer sa mission là-bas au Togo. Je te demande, Père, dans le nom de Jésus, que tu continues à bien diriger toutes les rencontres qu'il fait, les travaux qu'ils sont en train d'exécuter. Merci pour le maire qui a bien collaboré, pour toutes les autorités qui ont bien collaboré avec Philippe et pour tous les projets encore qui vont pouvoir être mis en place. Merci Seigneur Jésus d'utiliser notre communauté et les donateurs pour toutes ces choses. Je te rends grâce pour cela, Jésus, et je te prie que tu nous bénisses pendant ce moment de culte et que tu nous aides à bien comprendre quelle est ta volonté. Au nom de Jésus-Christ, amen.
Amen.
Nous allons lire dans Éphésiens, au chapitre 6, verset 12. J'ai bien mis l'appareil, j'espère. Oui, je l'ai bien mis. Ce n'est pas contre l'homme, dans l'autre version c'est marqué, ce n'est pas contre la chair et le sang, c'est-à-dire contre les êtres humains, que nous avons à lutter, mais contre des puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Amen. Amen. On vit une époque assez périlleuse en ce moment, et bien sûr, les combats qu'on va se dérouler sur cette terre ne sont que la manifestation de la puissance mensongère de Satan, parce que sa puissance est mensongère, il l'a usurpée, et à cause de l'être humain qui a bien voulu le choisir pour maître, et maintenant, le résultat est là. Et la Bible appelle le Satan le prince de ce monde. Donc, il faut être au courant de ces choses-là. En même temps, alors que le monde se bat de toutes sortes de manières, eh bien, le Saint-Esprit met l'accent sur un puissant combat spirituel. Un combat spirituel. Et Dieu prépare son vrai peuple, parce qu'il y a des gens qui se réclament du christianisme, mais qui sont chrétiens, comme les pieds de cette chaise. Dieu prépare son véritable peuple à infliger à l'ennemi sa plus grande défaite. Sont sur le point d'y arriver. Beaucoup de chrétiens réalisent qu'il ne suffit pas de croire en l'existence historique de Jésus, mais il faut croire dans ce qu'il a dit pour être sauvé et faire ce qu'il dit pour être sauvé. Croire dans les paroles de Jésus-Christ. Il y a trop de traditions, il y a trop de poussière, il y a trop de... Et puis maintenant, ces derniers temps, on invente des nouvelles traditions, en plus. Ridicules, toutes plus ridicules les unes que les autres. Ça, c'est religieux. Et moi, je ne vous parle pas de religieux, je vous parle du Jésus, de la Bible, des apôtres, de leur enseignement. De plus en plus de chrétiens s'équipent d'une connaissance simple, biblique, pratique, efficace, profonde. Et notre Père Céleste désire faire de chacun de ses enfants un véritable soldat spirituel. Il n'est pas question d'aller prendre des armes et puis aller se battre et faire couler le sang. Ce n'est pas contre les hommes qu'on a à lutter, mais contre des esprits, des autorités spirituelles qui manipulent des hommes. Il y a des hommes et des femmes qui sont manipulés et par des démons, et ces hommes-là manipulent le peuple, c'est vrai, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Il faut être spirituel, il faut être clairvoyant, et il faut faire non pas selon la chair, mais selon l'esprit. Dieu veut que ses enfants soient armés. Vous lirez plus loin dans Éphésiens chapitre 6, les armes que nous avons à prendre, nous devons les prendre, elles nous sont offertes, nous devons les prendre. et puis les utiliser. Et Dieu veut que nous nous entraînions pour accomplir une tâche puissante, pleine d'autorité, de sa parole écrite et vivante. Les difficultés qu'on traverse au quotidien, les petits trucs, les petits machins, c'est pour s'entraîner. Les difficultés que vous rencontrez, c'est pour vous entraîner à vous battre. Beaucoup trop de chrétiens sont passifs et murmurent des petites prières. C'est pas comme ça qu'un soldat se bat, hein, spirituellement. Je vais vous expliquer. D'ailleurs, cette prédication, c'est la première d'une série que je vais faire sur ce domaine, dans ce domaine-là. Vous savez que dans l'Apocalypse, on trouve sur le trône et au milieu du trône et tout autour du trône, quatre êtres vivants. Je vais lire ça dans Apocalypse, chapitre 4, d'abord, verset 6. Il est écrit, au milieu et autour du trône, donc de Dieu, se tiennent quatre êtres vivants couverts d'yeux, des yeux, devant et derrière. Le premier être vivant ressemble à un lion, le deuxième à un taureau, le troisième à le visage d'un homme, le quatrième ressemble à un aigle en plein vol. Alors, vous qui avez l'habitude de m'écouter, vous savez qu'il y a eu... Il y a sept âges dans l'Église. Ces âges-là sont décrits dans l'Apocalypse, écrits à l'ange de Éphèse, Smyrne, etc. Ce sont des lettres qui sont écrites non seulement pour des églises qui existaient à l'époque, mais aussi pour des périodes. Et dans ces périodes, dans ces sept âges de l'Église, il y a quatre sceaux, les quatre premiers sceaux qui concernent l'Église qui est sur cette terre. Le sceau 5, 6 et 7 ne concernent plus l'Église puisque l'Église aura été enlevée. Comment est-ce qu'on le sait? Eh bien, simplement parce que quand le premier sceau est ouvert, on voit que le premier animal, l'être vivant, est là, c'est le lion. Le lion de Judas, c'est-à-dire que la parole, véritablement, dans l'Église primitive, il y avait la parole de Dieu qui était manifestée. Le lion, c'était, la Bible nous dit, c'est le lion de Judas. Ensuite, le deuxième être vivant, c'est un taureau, c'est-à-dire c'est un être qui est un peu un être, comment dire, mis dans la servilité. À l'époque, on utilisait ces animaux-là pour tirer la charrue, pour faire ceci, pour faire cela. Et l'Église appréciait un temps où elle était dans la servilité. Mais fort quand même, hein. Ensuite, le troisième, un visage d'homme, ça veut dire quoi? C'est l'époque où Martin Luther, le réformateur, est arrivé et c'est la réflexion humaine, l'intelligence humaine qui s'est manifestée par la puissance de cet animal à visage d'homme. Luther a rétabli beaucoup de choses, par exemple le salut par la foi, il a dit des bêtises aussi, hein, mais il n'était pas parfait, il était comme moi, quoi. Il était très grossier aussi. Bon, passons là-dessus. Mais bon, donc c'était l'être vivant, c'était l'homme. Maintenant, aujourd'hui, eh bien, nous croyons, les véritables chrétiens savent que c'est les derniers temps, c'est les temps de l'église de Laodicée, qui est vomissable. Dieu dit, tu es vomissable, je te vomirai de ma bouche si tu ne te reprends pas, si tu ne changes pas. Mais l'être vivant qui s'occupe de l'église aujourd'hui, c'est l'aigle qui est en plein vol, c'est-à-dire c'est l'esprit de prophétie. C'est le quatrième être vivant. On trouve dans Apocalypse 6, 7, quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis le quatrième être vivant qui dit, viens et regarde, etc. Et c'est le quatrième, c'est l'aigle. Ensuite, quand il ouvre le cinquième sceau, il n'y a plus d'être vivant, le sixième sceau, il n'y a plus d'être vivant, C'est rare. Pourquoi? Parce que l'Église a été enlevée, la véritable Église. Il y aura toujours des chrétiens qui resteront là, à pétouiller, comme on dit en Suisse. Pétouiller, c'est un mot, ça fait longtemps que je n'avais pas dit. C'est-à-dire, voilà, quoi. Il n'y a pas besoin d'expliquer pour comprendre ce que ça veut dire pétouiller. Ça veut dire, on a tous compris, hein. Ben oui, il en restera, il y en a qui resteront là, ils seront derrière la porte. Seigneur, pourquoi tu nous ouvres pas? Je ne vous connais pas. Voilà, c'est terrible, mais c'est comme ça. Donc, ces animaux ont une puissance, et l'aigle a une puissance formidable en ce moment. C'est la puissance prophétique des vrais chrétiens. Je parle pas de la puissance prophétique qui vous dit tu vas te marier cette année, tu vas faire un voyage, tu vas recevoir de l'argent. Ça, c'est de la gnognoterie. Ça aussi, c'est un mot suisse. C'est de la gnognoterie. C'est pas de la prophétie, c'est de la flatterie pour, n'est-ce pas, vous donner un petit peu d'espoir quand vous en avez presque plus. Mais c'est pas ça l'esprit prophétique. C'est pas ça. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est bon. Il y a des gens qui y croient, hein. Bon, ben, croyez-y, c'est bien. Vous pétouillez dans votre coin, c'est bien. La puissance prophétique des vrais chrétiens. Et avec cette aigle, Dieu nous conduit dans une confrontation contre les puissances démoniaques. C'est ça le truc. C'est pas, va faire un voyage, tu vas te marier, toi. Bon, il peut y avoir des prophéties qui disent ça et qui sont vraies, mais. Il y a trop de ces prophéties banales. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune. Alors c'était tous les dimanches on avait droit à « Mon petit troupeau, ne regarde ni à gauche ni à droite, regarde à moi, je viens. » Et tous les dimanches, c'était une tradition, quoi. Une prophétie de gnognotte, comme je dis. Jésus, lui, il est en position offensive. Il y a un ennemi à battre. Il y a un ennemi à battre. Il nous appelle à nous engager dans un combat spirituel avec des stratégies. Par exemple, quand vous voyez sur Révélation Bible, au sujet de la nouvelle lune, de solstice, de toutes ces choses-là, il y a beaucoup de chrétiens qui se joignent à nous pour prier parce qu'ils ont compris ce que c'est que ce combat stratégique. D'autres restent là disant « Oh, mais c'est dans le livre d'Enoch, c'est un livre apocryphe. » Bon, mais restez dans vos histoires, c'est bien, vous êtes content, c'est bien. Si vous êtes content, je suis content pour vous. Mais nous voulons un combat fort, spirituel et stratégique contre les puissances de l'ennemi, et on s'arme et on obéit à l'aigle qui est l'esprit prophétique. Trop longtemps, l'Église s'est comportée comme une victime. Il est temps de se réveiller. Il est temps de se réveiller et d'exercer notre pouvoir offensif. Dans une bataille, en compagnie du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, avec le regard prophétique de l'aigle. L'aigle, il vole, il voit tout d'en haut et il juge de tout. La Bible dit, l'homme spirituel juge de tout. Les autres, ils disent, il ne faut pas juger. Bon, ben, jugez pas, c'est bien, vous ne savez pas, vous ne jugez pas, c'est bien. Il y a quelques jours, nous avons fêté les 80 ans du débarquement. Les Alliés avaient remporté une immense victoire dans ce combat contre Hitler. Pourtant, les nazis disposaient encore d'une puissance militaire considérable. Il y avait le reste de la guerre à faire, à vivre. Et ça n'allait pas être facile si vous étudiez l'histoire. Ça n'a pas été facile. Personne ne pouvait dire combien de temps ce combat allait encore durer. Mais nos ancêtres savaient une chose, ils allaient gagner, parce qu'ils partaient pour gagner. Ils partaient pour se battre et pour gagner. Eh bien, en ce moment, la guerre spirituelle est à l'image de ce qui s'est passé à cette époque. Alors, regardons un peu où est-ce qu'on en est. Depuis le début de l'Église, les enfants de Dieu ont toujours été mêlés à un conflit armé contre le royaume des ténèbres. Il y a toujours eu des persécutions. Jésus a été crucifié, bon, on sait pourquoi. Les apôtres ont été mis en prison, torturés. Les premiers chrétiens étaient jetés au lion dans les arènes. Enfin, il y a toujours eu une opposition. Le diable déteste l'Église. Je vais vous dire une chose, il se fiche de la politique, ce qu'il ne veut pas, c'est une Église réveillée. Nous avons eu des grandes victoires quand même, par exemple la réforme avec Martin Luther, et puis le réveil au temps de Wesley. Il faut que vous étudiez ces choses, ce sont des hommes qui ont apporté quelque chose à l'Église véritablement. Puis il y a eu le mouvement missionnaire moderne, comme avec des gens tels que Osborne, qui ne se contentaient pas. Vous savez, on peut faire de l'évangélisation au porte-à-porte, on peut faire de l'évangélisation du 1 à 1, et puis on peut faire de l'évangélisation en masse. C'est ce que notre époque a connu. C'est au cours du siècle passé que ça a commencé à se manifester d'une façon grandiose. Nous avons aussi vécu des revers, comme par exemple la montée de l'islam. Je ne fais pas de dessin, et puis 70 années de communisme athée, les chrétiens étaient persécutés d'une façon abominable, et bon, maintenant c'est l'islam qui persécute beaucoup, c'est des revers terribles. Mais chaque pas en arrière, pour chaque pas en arrière, l'Église, la vraie Église de Jésus-Christ, fait deux pas en avant. Pendant la guerre, 156 000 alliés sont arrivés en Normandie. Et ils se sont battus avec acharnement. Ils sont montés jusque sur la Belgique. Et en hiver 1944-45, ils ont remporté la fameuse bataille d'Ardennes. Je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire, c'est la bataille la plus renommée de toutes les batailles. Dans le monde spirituel, la vraie Église de Jésus-Christ a à combattre le diable avec intensité. C'est pas un jeu. Avec une détermination formidable. Avec et grâce à l'esprit prophétique, cet être vivant. Vous savez, je vous l'ai déjà dit souvent, mais je vous le redis parce que je l'ai vécu. Quand je me suis converti, le pasteur Giton Raphaël, qui était un être tout simple, illettré, mais rempli de l'Esprit de Dieu, il a vu le nom de mon maître astrologue qui était écrit sur mon front et il m'a dit son nom. Il ne me connaissait pas, il ne pouvait pas savoir. C'est l'esprit de l'aigle, c'est l'esprit de prophétie. Il a chassé le démon. D'abord, il m'a demandé si je voulais être délivré. Et comme il m'a montré dans la Bible que l'astrologie était une abomination, j'ai dit oui, je veux être délivré. Donc, il a prié et j'ai été délivré. Et à l'époque, c'était pas la mode d'être délivré en se roulant par terre comme des... Bon, ça s'est passé très simplement, mais ça s'est passé réellement. J'ai vu des serviteurs de Dieu, tels que Vikram Seth, qu'on a eu l'honneur aussi de recevoir dans notre communauté plusieurs fois, lui dévoiler les cœurs dans les réunions. Pendant les réunions, tout à coup, il s'interrompait, il disait « Madame, vous avez ça et ça et ça et ça ». Il avait cet esprit prophétique. L'aigle, le quatrième être vivant de l'Apocalypse, est à l'œuvre. Vous savez, aujourd'hui, chaque membre du corps de Christ est extrêmement important. Camélia disait, dans l'Église, il ne peut pas y avoir que des officiers, il faut aussi des soldats pour manger la soupe. Ça veut tout dire, ça veut dire qu'il y a des soldats et des officiers. Vous n'êtes peut-être pas un officier, vous n'êtes peut-être qu'un soldat, mais vous devez être aux ordres, vous devez faire ce que les ministres vous disent de faire. Les officiers... Et pour que l'armée du Seigneur Jésus soit efficace, victorieuse, elle doit tenir sur les ordres qui viennent de la tête. c'est-à-dire de Jésus-Christ. Si un officier vous dit de faire une chose qui n'est pas écrite dans la Bible, vous ne lui obéissez pas. C'est un rusé. C'est pas un homme de Dieu, c'est pas une femme de Dieu. Vous voyez ce que je veux vous dire? Mais si ce qu'il vous dit est scripturaire, alors il faut être aux ordres parce qu'il a reçu, lui, des directives. Et Jésus-Christ parle par sa parole écrite et il parle par ses serviteurs qu'il confirme toujours par des miracles évidents et publics et non payants. D'accord? Alors voilà. Tous les chrétiens ne sont pas des officiers, mais tous les chrétiens sont des soldats. Vous devez être un soldat, vous devez commencer à prendre compte de ce fait. Vous êtes un soldat, vous n'êtes pas une victime. Les officiers du Seigneur reçoivent des directives et ils motivent les troupes à aller à la guerre, ce que je fais un peu aujourd'hui. Ils reçoivent des ordres pour des stratégies, ils les communiquent et ils se rendent sans réserve au combat, sur le front. Alors il y en a qui... Non, j'ai étudié et j'ai lu, je n'ai pas étudié, j'ai lu l'histoire du général Eisenhower. Et vous savez qu'il n'a jamais mis les pieds dans une tranchée et il n'a jamais tiré un seul coup de fusil. Il dirigeait à distance. C'est une bonne façon de faire, mais ce n'est pas la seule. Il faut des officiers au front aussi. Il faut des officiers sur le terrain. Il faut aller dans les petits villages où règne le vaudou, la sorcellerie et toutes sortes de puissances maléfiques. Vous allez me dire, oui, mais ça c'est en Afrique. Non, vous en avez aussi en France. Il y en a en France. Il y en a en Suisse, il y en a en Belgique, il y en a partout. Il y en a partout. C'est pas qu'en Afrique, la sorcellerie. Osborne m'avait dit, quand il avait appris que j'allais partir prêcher en Afrique, il m'a dit, vous allez voir que les démons sont beaucoup moins civilisés et sophistiqués qu'en France ou en Suisse. En Suisse, ils ont pignon sur rue dans des grandes boutiques, n'est-ce pas? Et on vous vend des planches Ouija dans les magasins pour les enfants, pour qu'ils puissent jouer avec. C'est du diable. Mais les gens ne savent pas. Puis ils regardent des films d'horreur, on leur parle de ça, ils disent « Oui, mais c'est des films d'horreur, ça n'existe pas. » Cette semaine, pas plus tard que cette semaine, je parlais avec une dame qui travaille pas loin de la communauté, et là où elle travaille, il y a des esprits qui sèment la discorde entre ceux qui travaillent, et il faut savoir que dans cette maison, autrefois, il y a eu des drames, et des gens qui sont morts d'une façon étrange. Et certains esprits ont pris demeure dans cette maison. Ils habitent dans cette maison, ils sont là et ils influencent. Et l'onction d'huile, ça sert à quoi? Dans la communauté, nous pratiquons l'onction d'huile sur les portes et sur les fenêtres, régulièrement. Vous savez pourquoi? Nous sommes une maison de prière. Les démons détestent ça, ils viennent pas. Par contre, on reçoit des gens. On a des visites, des gens qui viennent, plus ou moins sanctifiés. On reçoit toutes sortes de personnes. Et puis des fois, ces personnes, en repartant de chez nous, ils nous laissent quelques mauvais esprits qui s'incrustent. Alors, nous prenons autorité au nom du Seigneur Jésus-Christ et nous les chassons. Et au nom du Seigneur Jésus-Christ, on les chasse et puis on met de l'huile sur les entrées et les sorties de la maison. C'est un geste symbolique, l'huile représente le Saint-Esprit. Vous comprenez? Je vous enseignerai ces choses dans les semaines qui viennent. Mais qui fait ça aujourd'hui? Plus personne ne fait ça. Les gens comprennent pas, ça va pas tant bien. On sait pas trop pourquoi, ça va pas tant bien, il y a une mauvaise ambiance. Mais est-ce qu'il y a une mauvaise ambiance? Ouais, vous êtes environné de toutes sortes de mauvais esprits, puis vous pensez que c'est la faute de un tel, de une telle. Mais non, c'est pas contre la chair et le sang que vous avez à lutter, c'est contre des esprits. Ou alors vous croyez pas la Bible. Je vous ai lu dans Éphésiens 6. Hein. Alors j'ai appris beaucoup de choses avec Camélia. la belle-mère de Raphaël, c'était aussi une vieille gitane qui était illettrée, mais qui connaissait bien la parole. Elle connaissait bien la parole de Dieu parce qu'elle l'écoutait, elle la mémorisait, et puis elle en parlait à gauche, à droite, partout, 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 tout le temps. Et c'était une véritable prophétesse, vraiment. Et un jour, nous avons été invités, elle et moi, dans une maison de gens très aisés, mais il y avait une discorde pas possible dans cette maison. Et ces gens nous ont... Ils ont dit, écoutez, on vous laisse la maison pendant une semaine, nous on s'en va, et on vous laisse nettoyer la maison. Ils sont partis, nous ont laissé la maison. Une maison magnifique, une énorme maison, toute neuve, tout neuf. On ne pouvait pas dire que c'était des esprits mauvais qui venaient là depuis des siècles, parce qu'il y avait eu des drames et des morts et des machins. Et nous, bon, voilà. Mais c'était infesté de démons. Alors on a commencé le combat avec Camélia. Et la première chose, j'ai vu des ombres humaines. Mais je sais qu'il y a des gens qui vont pas me croire, mais tant pis, c'est pas grave, moi je vous rends témoignage de ces choses. Des ombres humaines qui se faufilaient dans la maison. On les entendait descendre, il y avait des escaliers. On les entendait descendre dans l'escalier et remonter et redescendre. Enfin, et... Il y en a qui s'amusaient à tirer la chasse d'eau. Comme ça, d'un coup, au plein milieu de la nuit, boum, la chasse d'eau qui était tirée. Et puis ils parlaient, les portes s'ouvraient, se fermaient, claquaient, tout ça. C'était pas des courants d'air, c'était vraiment bizarre. Ils parlaient, ils prenaient la voix. Ils imitaient Camélia, et, ou alors ma voix. Alors Camélia venait vers moi, me dit, tu m'as appelé? Je dis non. Il s'amuse avec nous, il nous tourne en bourrique. Et voilà. C'était vraiment terrible. On a lutté une semaine là-dedans. Une semaine. Et le dernier jour, Camélia a senti une main dans son dos qui l'a poussée par terre. Elle est tombée, elle s'est relevée. Et quand elle s'est relevée, il y avait une marque dans son dos, comme Michou s'en souvient. C'était la marque de cette main. Et c'est devenu un zona. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un zona. Parce que le diable en avait marre. Il voulait détruire Camélia, parce que Camélia était plus forte que moi. Moi, j'étais novice encore, j'apprenais. J'ai beaucoup appris, hein, avec elle. Elle a eu la révélation de ce qui s'était passé dans cette maison. Le mal venait d'un chrétien extrêmement riche, qui fréquentait une des plus grandes églises de Paris de l'époque, et il venait en vacances, là, chez ces gens, et dans sa chambre, il faisait des pratiques vaudou. Il était bien le chrétien, hein ? Des pratiques vaudou. Alors quand on a eu cette révélation, eh bien c'était facile, on savait à quelle sorte de démon on avait affaire et comment il fallait les chasser. Une fois démasqués, on a pu chasser ces esprits et nettoyer la maison. Cet homme n'est plus jamais revenu et la paix par contre s'est installée là et voilà, c'était magnifique. Mais quel combat! Je me rappelle que Camélia avait été priée dans une maison aussi. Et c'était un combat qui était dur. Elle avait demandé à Raphaël de venir l'aider. Et Raphaël était jeune dans le ministère. Alors, il était là et la nuit, il se lève pour aller aux toilettes comme tout le monde. Des fois, ça arrive. Hein. Il s'est pris une casserole en pleine figure. Il y a des démons qui font... C'est pas que dans les films d'horreur, hein, ça existe. Il y a des choses comme ça qui existent. C'est pas seulement en Afrique. Alors, Raphaël, il est allé chercher un fusil. Caméra a rigolé, il disait, oh, tu peux pas l'aider moi avec un fusil. Au nom de Jésus, je vais le tuer. Mais tu peux pas tuer un esprit avec des... Raphaël, il aussi a dû apprendre, il a appris. On apprend ces choses. Vous devez apprendre ces choses afin d'être efficace dans la bagarre. Ça fait pas peur. Ça fait pas peur d'être dans la bagarre parce qu'on sait que la victoire est assurée. Et Camélia et Raphaël ont fini par nettoyer la maison. J'ai vécu des histoires comme ça, mais des dizaines de fois. Et j'ai appris que nous avons une autorité. Nous avons une autorité. Il ne suffit pas de marmonner une prière. Il faut prendre autorité contre ces puissances invisibles au nom de Jésus-Christ. Vous savez, prendre autorité. Quand je parle à ma femme, je n'ai pas besoin de prendre autorité. Je parle avec elle. C'est une femme d'amour, une femme sage, une femme intelligente. Donc nous parlons, nous communiquons. Mais quand je parle à mon chien, des fois je vois qu'il ne comprend pas ce que je veux lui dire, alors je parle un peu plus fort, avec autorité. Hein, vous avez entendu cette expression, mais tu me parles comme si j'étais un chien. Ben oui, il y en a, des fois, ça va, quoi, t'arrêtes ? Ouais, il s'arrête tout de suite. Hein. Il faut parler avec autorité. Et puis ça peut durer un temps. Mais la victoire est assurée. Il faut parler avec autorité au nom du Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, il ne fait aucun doute que la victoire finale est proche. Jésus revient bientôt. Mais ce n'est pas le moment de baisser les bras. Ce n'est pas le moment de se demander « Mais est-ce que ce que Michel nous dit, c'est vrai ?» Non, non, il faut arrêter ça. Il vous faut faire ce que la Bible vous dit de faire. Armez-vous, prenez les armes spirituelles de Dieu et combattez le bon combat de la foi contre des esprits, pas contre des gens, contre des esprits. Je vais vous enseigner certaines choses dans les semaines qui viennent pour vous aider à lutter, par exemple au sujet de l'onction d'huile dont je vous ai parlé, ou alors de la puissance du sang de Jésus. Vous avez des gens qui sont toujours en train de dire « Oh, j'invoque le sang de Jésus, c'est pas comme ça qu'il faut faire, je vous expliquerai. » Beaucoup de choses. Vous êtes vainqueur et plus que vainqueur. Tout ça, c'est écrit dans Romains chapitre 8, verset 37, je vous le lis. Romains 8, verset 37. Voilà ce qui est dit. « Dans tout cela, nous sommes plus que vainqueur grâce à celui qui nous a aimés. » Qu'est-ce que ça veut dire être plus que vainqueur? Ça veut dire être vainqueur et le rester. Vous voyez ce que je veux dire? Les gens, ils se battent, ils ont une petite victoire, ils sont tout contents, ils vont dormir un moment, puis l'ennemi revient. Non. Vous êtes plus que vainqueur, c'est-à-dire vous êtes vainqueur et vous restez vainqueur. C'est-à-dire que l'ennemi, il reste vaincu. Vous marchez sur la tête du serpent. Au nom de Jésus, vous êtes capable de le faire. Alors votre ville, votre pays, le monde, attend sur vous sans savoir. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas que c'est vous. La Bible dit que quand Jésus reviendra, nous serons manifestés. C'est-à-dire les gens verront ce que nous sommes réellement. Il y a un monsieur là qui rigole avec moi. Il me dit, mais moi je crois pas en Jésus, je crois aux extraterrestres. Je dis, mais Jésus est un extraterrestre. Il a dit, je ne suis pas de ce monde. Ah ouais, c'est vrai. Puis j'ai dit, puis moi aussi je suis un extraterrestre, parce que Jésus dit, vous n'êtes pas de ce monde. Si vous étiez de ce monde, le monde vous aimerait. On n'est pas d'ici. On est ici, pourquoi ? Pour mener un combat au nom de Jésus contre ces puissances infernales, et on va gagner. C'est bientôt la victoire. C'est bientôt la victoire, mes frères et sœurs. Le monde ne sait pas que c'est vous qui êtes les véritables combattants. Ils ne savent pas quel est votre pouvoir. Mais et vous, est-ce que vous, déjà, est-ce que vous savez que vous avez ce pouvoir? Beaucoup de chrétiens l'ignorent et se comportent encore comme des victimes et marmonnent des prières. Vous devez pas seulement croire, vous devez savoir. Et quand on sait, on a le pouvoir. On a le pouvoir. Mais encore faut-il être éveillé. Vous avez des gens qui dorment, qui rêvent, qui font des doux rêves. Ah ben j'ai rêvé ci, j'ai rêvé ça. Ouais, ah bon, c'est bien. C'est très rare, hein, moi. Non, moi je préfère être dans le combat, bien réveillé, bien conscient, les yeux ouverts, et puis je regarde avec l'esprit de l'aigle, avec l'œil de l'aigle, On n'a pas à lutter contre des gens, mais contre des esprits. Notre combat, il est spirituel, il est efficace. Notre victoire sera puissante. Elle va être terrible. Quand ils vont voir la victoire, les gens, waouh! Vous savez, on ne joue pas contre un enfant de Dieu qui a les armes de Dieu. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. La Bible nous dit que même le diable, il fuit de telles personnes. Même le diable, il fuit. Alors vous pensez les gens. Jacques chapitre 4, verset 8. On va lire 4, 7 à 8. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. Il fuira loin de vous. C'est le diable qui a la trouille, c'est pas vous qui devez avoir peur, vous devez pas avoir peur, même si vous prenez une casserole dans la figure, c'est une grimace du diable, c'est rien. Il finira par fuir loin de vous. Résistez! Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Et puis continuez en disant, nettoyez vos mains, pécheurs. Il est créé des chrétiens. Hein. Purifiez votre cœur. Homme partagé. Ah oui, mais moi je pense que, à mon avis, souvent on m'écrit comme ça. Moi je m'en fous de ton avis, c'est ce que la Bible dit qui est important. Ah oui, mais dans ma religion, je m'en fous de ta religion. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que Jésus dit? Qu'est-ce que les apôtres disent? C'est ça qui est important. C'est ça qui vous mènera à la victoire. C'est ça qui fera de vous un soldat du roi des rois. C'est pas les on dit, les traditions, les machins poussiéreux. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez votre cœur, homme partagé. Ayez conscience de votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Dieu veut vous élever. Vous êtes à plat plat. Humiliez-vous encore devant Dieu. Pas en gémissant, en disant, oh, mais pourquoi il m'arrive ça, moi? Oh, il manquait plus que ça. Oh, ben pourquoi moi? Toujours moi. C'est toujours à moi que ça arrive, ces choses. Humiliez-vous devant Dieu. Homme partagé. Soyez entier sur la parole de Dieu, sur les promesses de Jésus-Christ et des apôtres. Soyez entier et battez-vous au nom de Jésus. Le quatrième être vivant, l'aigle, est avec vous aussi pour vous aider dans ce combat. C'est l'Esprit qui, aujourd'hui, agit dans l'Église. Avant, c'était l'animal à tête d'homme, avant, c'était l'animal qui était comme un taureau, avant, c'était l'animal qui était comme le lion, aujourd'hui, c'est l'aigle. On vit une époque fabuleuse, mais beaucoup de chrétiens dorment, c'est ce que Jésus dit. Trouverai-je la foi quand je viendrai sur la terre? Il dit, les vierges folles, je me rappelle en Afrique un jour, j'ai dit, qui c'est qui veut être une vierge folle? Levez la main. Personne n'a levé la main. Après j'ai dit, qui c'est qui veut être une vierge sage? Tout le monde a levé la main. Je dis, ben pas moi, je veux pas être une vierge sage. Tout le monde a fait, oh, non, je veux pas être une vierge sage. Je veux être la voix qui crie, réveillez-vous, l'époux vient. Les vierges sages, elles dorment, aussi bien que les vierges folles. Oh, les vierges folles, elles sont graves en ce moment-là. Mais les vierges sages, c'est pas terrible non plus. Hein. Réveillez-vous, l'époux vient. Allez à sa rencontre. Ayez de l'huile, la réserve d'huile dont vous avez besoin pour pouvoir aller jusque à sa rencontre. Pour aller à sa rencontre, approchez-vous de Dieu, la Bible dit. Approchez-vous de Dieu. Mais pour vous approcher de Dieu, il faut résister au diable. Résistez au diable. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Le diable ira loin de vous. Mais tout ça, c'est un processus. Vous devez vous mettre en marche, arrêter avec vos gnognoteries religieuses. Devenez des soldats au nom de Jésus. Amen. Au revoir. À bientôt. Que Dieu vous bénisse.